d'emploi. Mode d'emploi.
Eh bien, bien le bonjour. Vous êtes sur Mode d'emploi, secret de fabrication. Un format particulier où on parle de ce qui se passe partout dans les entreprises, dans les administrations, comment on peut soutenir les gens dans leur propre lutte. Et donc, nous avons deux excellentes nouvelles pour vous sur Radio Fréquence Paris Pluriel. D'abord, nous allons procéder à une rediffusion, mais améliorée, d'une excellente intervention du camarade Ludovic sur la révolution de 1848, que nous avons voulu rediffuser sur les ondes parce que nous sommes des perfectionnistes dans cette émission. Et ensuite, nous allons enchaîner sur la lutte pour la préservation de la Sécu. On vous en avait déjà parlé dans une précédente émission. Il va falloir se battre pour que nos centres de Sécu continuent à fonctionner. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer en première partie par Ludo et la Révolution de 48.
La Révolution de 1848 fait partie de ces révolutions du 19e où le peuple parisien, toutes classes confondues, peut encore jouer un rôle et tenter d'infléchir le cours des événements, malgré, comme on va le voir, des forces politiques hostiles avant et après les élections au suffrage universel d'avril 48. Plus que celle de 1789 et de 1830, c'est celle de 1848 qui pose la question de la condition de la classe ouvrière, qui a fortement cru pendant les débuts de la révolution industrielle et dont les conditions de travail se sont dégradées du fait de l'introduction des machines dans les manufactures. Pour rappel, la loi Le Chapelier de 1792 avait interdit, je cite, « l'association des travailleurs pour enchérir les salaires » et le Code civil de Napoléon avait précisé dans son article 1080 que dans toutes les contestations sur la quotité des gages, c'est l'employeur qui sera cru sur sa parole, laquelle fera foi. Tout est presque dit dans ces deux articles de loi. L'ouvrier de 1848 est seul face à l'employeur. Il est à la merci de ce dernier qui lui fournit du travail, souvent par intermittence, et l'État ne réglemente aucunement le marché du travail, ni en salaire, ni en durée ou en conditions de travail, y compris pour les enfants. De telle sorte que le quotidien de l'ouvrier est la multi-activité entrecoupée de périodes de chômage et il est souvent à la limite de la survie. C'est une crise en 48, on vit à l'époque sous le régime de la monarchie dite de Juillet, de Philippe d'Orléans et de son premier ministre Guizot. Une monarchie à façade parlementaire puisque le corps électoral est constitué de 500 000 personnes qui peuvent en élire seulement 50 000. Ce qui donne une assemblée, comme l'a écrit Karl Marx, composée de rentiers, de grands industriels et de banquiers qui font la vie économique du pays. Par ailleurs, le régime interdit les rassemblements publics et les manifestations politiques et il pratique la censure vis-à-vis de la presse. C'est une crise économique qui va provoquer la révolution de 48. Suite à de mauvaises récoltes, l'augmentation des prix alimentaires semble par contre-coup faire baisser les prix de l'habillement, ce qui provoque une crise de surproduction dans le textile, des fermetures d'ateliers, une baisse du revenu ouvrier et du chômage. Aussi étonnant que cela puisse nous paraître à l'époque, les ouvriers de l'époque doivent arbitrer entre des dépenses d'habillement et des dépenses alimentaires. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les nouvelles sociétés par action de chemin de fer connaissent leur première crise de liquidité et stoppent leur activité. Ce marasme cristallise le mécontentement auquel se greffent les revendications de droit de vote des classes moyennes et de liberté politique. Le régime ayant interdit les réunions publiques, c'est par des campagnes de banquets festifs que s'exprime l'opposition durant l'année 47. Et c'est justement l'interdiction du dernier banquet en février 48 qui provoque les manifestations d'hostilité au régime. Le 22 mars, les étudiants, les ouvriers, les artisans, ainsi que les membres des sociétés secrètes républicaines et socialistes défilent dans Paris. Le 23 et le 24, la capitale se couvre de barricades, et lorsque la garde nationale, héritière de la milice bourgeoise de Lafayette, se rallie aux émeutiers, le gouvernement n'ose ordonner à l'armée d'intervenir. Le 24 février, Philippe d'Orléans abdique. La République est proclamée à l'Hôtel de Ville, et un gouvernement provisoire est constitué de la fusion de deux tendances républicaines, l'une libérale et majoritaire, l'autre, dite « démocrates sociaux », avec l'avocat Ledru Rollin, le socialiste Louis Blanc, l'ouvrier Albert, le poète aristocrate Lamartine, occupant du fait de son prestige la position centrale et médiane. Sous la pression populaire, le gouvernement rétablit le suffrage universel, proclame la liberté de réunion publique, lève la censure sur les journaux. Il interdira la prison pour dette, abolira l'esclavage en indemnisant les propriétaires et interdira la pomme de mort pour raisons politiques. Mais la grande affaire du gouvernement, c'est les milliers de chômeurs jetés sur le pavé par la crise et qui ont bien sûr joué un rôle déterminant dans la chute du régime. Il faut préciser ici qu'en récompense de leur état de service, la garde nationale s'est ouverte aux ouvriers, ce qui signifie que ces derniers ont un accès gratuit à l'équipement et à l'armement, ce qui bien sûr modifiera singulièrement le rapport de force dans la Révolution. Les libéraux se sont attribués les ministères des Travaux publics et des Finances dans le gouvernement provisoire, ce qui va leur permettre d'orienter la question de la création des ateliers nationaux pour résorber le chômage. Les socialistes auraient souhaité la création de coopératives de production et de consommation rachetées à crédit par l'État dans un premier temps, puis progressivement détenues par les travailleurs. Les libéraux y voyant tout à la fois une nationalisation, une entorse à la loi qui interdit l'association des travailleurs et une concurrence déloyale à la libre entreprise, entre guillemets, préférèrent ressusciter les ateliers de charité de l'ancien régime, ce qui consiste à donner aux ouvriers des travaux de voirie et de terrassement pour les occuper contre un minimum vital, mais sans leur permettre de produire et de vendre quoi que ce soit.
C'est le vieux patin qui a quitté Paris, qui va crier partout que Paris se déconfit. Puis avec politesse il le reconduisit sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, tralala.
Le Drurelin et Lamartine concédèrent au socialiste Louis Blanc la création d'une commission du gouvernement pour les travailleurs, dite Commission du Luxembourg, évidemment consultative, ce n'était pas un ministère, qui fonctionnera, selon l'historien Gérard Noiriel, comme un parlement ouvrier, puisque 700 délégués des différents corps de métier se succéderont pour élaborer un droit du travail indépendant des exigences des employeurs. Les travaux de la commission aboutirent à fixer un minimum d'heures travaillées, 10 heures à Paris et 11 heures en province, et interdira le marchandage, c'est-à-dire les intermédiaires entre le patron et les ouvriers, intermédiaires qui ramassaient la commande et distribuaient le travail aux différents corps spécialisés à la tâche, d'où le surnom de tâcheron. Le gouvernement provisoire est alors occupé par la préparation des élections au suffrage universel, élections dont la partie gauche du gouvernement provisoire sent qu'elles ne leur seront pas favorables. Le 23 avril a lieu donc les premières élections au suffrage universel pour élire une assemblée dite nationale et constituante. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de parti, trois blocs se dégagent. Les conservateurs à tendance monarchiste à droite, les démocrates sociaux et les socialistes à gauche, et au centre, les républicains, qui représentent la tendance majoritaire. Les socialistes constatent alors que les campagnes sont, au moins à cette date, nettement moins réceptives à la question sociale que les masses ouvrières des villes. Ils vont d'ailleurs s'en apercevoir très rapidement, puisqu'à Rouen, l'ancien procureur général Sénard, élu très largement à la Constituante, et à qui l'on prêtait la volonté de supprimer les ateliers nationaux, réprime une manifestation ouvrière en faisant donner la garde nationale, puis en envoyant l'armée contre les barricades érigées dans les nuits dans les quartiers ouvriers. Le 15 mai à Paris, une manifestation de solidarité en faveur du mouvement national polonais dégénère. Les ouvriers envahissent le palais Bourbon, laissés curieusement sans défense, pour y proclamer un nouveau gouvernement provisoire. La troupe intervint et met au cachot tous les leaders socialistes de l'époque, Barbès, Blanqui, Albert, et dissout la commission du Luxembourg. À partir de ce moment, la politique de l'Assemblée prend un tour nettement plus conservateur, puisque le 2 juin, elle prend la décision de ne plus attribuer d'allocation publique aux chômeurs, décision qui évidemment conduit à une nouvelle nuit d'émeute dans les quartiers ouvriers. Le 23 juin, elle décide la suppression des ateliers nationaux, laissant pour seule possibilité à ses 117 000 bénéficiaires de s'engager dans l'armée ou d'aller défricher la Sologne. Pour rappel, les ateliers nationaux coûtaient au budget de l'État 1%. Certains historiens, et non des moindres, considèrent que la suppression des ateliers nationaux est une manœuvre des conservateurs pour se débarrasser des résistances ouvrières, mais aussi de la commission exécutive de l'Assemblée jugée trop modérée, et la remplacer ainsi par un homme fort. Et en effet, en préparation des émeutes, le général républicain Cavaignac est nommé au ministère de la guerre et il fait venir des troupes de province pour affronter les insurgés. Du 23 au 25 juin, les quartiers ouvriers de l'Est parisien se couvrent de barricades. Il semblerait que la garde nationale se divise entre habitants des quartiers de l'Est et de l'Ouest, mais quoi qu'il en soit, 15 000 ouvriers affrontent 60 000 hommes, constitués de l'armée, d'une partie de la garde nationale et des mobiles. L'émeute dure 3 jours. Elle fait un minimum de 4 000 morts côté ouvrier, mais les chiffres ne sont pas très fiables, auxquels il faut ajouter les 1 500 fusillés sans jugement et les 11 000 condamnations, dont un certain nombre à la déportation en Algérie. À la suite de ces émeutes, la Chambre exigera la démission de la commission exécutive et qu'elle remplacera par le général Cavaignac. Je ne vais pas m'étendre sur la suite, seulement pour signaler que la Deuxième République ne conservera aucune conquête sociale, ni la durée légale du travail, ni le délit de marchandage, qui, lui, deviendra un délit dans les années 1900. Mais surtout pour signaler l'œuvre de cette Deuxième République, issue des élections de 1949, élections fortement polarisées comme on s'en doute, où apparaîtra ce qu'on appelle le Parti de l'Ordre, avec des leaders comme Thiers et Falloux, ou un certain Louis-Napoléon Bonaparte, dont Thiers, qu'il avait choisi, pensait que ses faibles capacités intellectuelles n'en feraient jamais un danger. La Deuxième République rétablit la censure, abolit le suffrage universel, ce qui ramènera le corps électoral de 10 millions à 3 millions de personnes, ordonnera aux gendarmes de verbaliser tout signe extérieur évoquant le socialiste, drapeau rouge, cravate rouge à l'Assemblée, chant révolutionnaire. Elle mettra au cachot ses propres députés, rétablira le pape dans ses états pontificaux au cours d'une expédition en Italie et enfin promulguera la fameuse loi Falloux, dite loi de liberté, qui autorisera les religieux à ouvrir leurs propres écoles et leurs propres universités, mais qui placera l'enseignement public sous le contrôle de l'évêque. Il est à noter, comme l'a dit Victor Hugo, que le cléricalisme du Parti de l'Ordre était tout à fait intéressé, puisque, par exemple, M. Montalembert, un des promoteurs de la loi Falloux, dira à l'Assemblée, je cite, « Bien d'autrui tu ne prendras, c'est la seule loi du christianisme ». Ou encore, M. Falloux, dans ses mémoires, « Le premier devoir du prêtre, et ce que nous lui demandons avant tout, c'est d'enseigner aux pauvres la résignation ». Bref, quand la Deuxième République tombera entre les mains de Louis-Napoléon Bonaparte, qui prétendra rétablir le suffrage universel avec le plébiscite, presque personne, en dehors de quelques quartiers ouvriers, ne la défendra.
Eh oui, il faut que le mouvement ouvrier ait toujours de la mémoire, y compris quand il va adresser des questions d'actualité. Moi, je voulais attirer l'attention sur deux choses dans tout ce qui a été dit là. C'est que, d'abord, Badinguet, le Badinguet de la chanson, c'est bien Louis-Napoléon Bonaparte. Et que Louis-Napoléon Bonaparte, c'était vraiment le prototype du fascisme au sens le plus simple, quoi. Donc il faut relativiser parce qu'on a une vision très débonnaire du personnage, mais c'était pas du tout un personnage débonnaire. Les méthodes qu'il a utilisées étaient tout à fait proto-fascistes. Mais enfin bon, on reviendra là-dessus. Tout ça, c'est pour dire que le mouvement ouvrier doit toujours garder de la mémoire, mais qu'il doit toujours rester un mouvement. Or, ça veut dire adresser les problèmes du moment. Lors d'une émission précédente, nous avions parlé, nous avions introduit Sylvain de Sud Protection Sociale 93, qui nous avait parlé du saccage des centres de sécurité sociale. Eh bien, voilà, le mouvement ouvrier doit rester le mouvement. Et donc, nous avons l'honneur de vous faire un reportage en direct, on va dire, enfin, bon, bref, de la réunion. Qui a eu lieu, quand est-ce qu'elle a eu lieu cette réunion? Elle a eu lieu le vendredi dernier. Et nous avons beaucoup discuté de protection sociale. Et nous voulions partager cela avec vous. Et sans plus attendre, Sylvain, qui avait introduit la réunion, va nous présenter et très clairement ce qui se passe.
D'accord. Donc, je ne vais pas faire l'historique depuis 1945, parce que je rappelle que notre protection sociale a été mis en place en 1945 par le Conseil national de la Résistance, où il y a des noms célèbres, Ambroise Croizat, etc. Et je rappelle que la protection sociale, que ce soit les retraites, la maladie, etc., c'est le salaire différé des salariés. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher, je donnais toujours cet exemple, 1600 euros, vous en touchez 1500, et il y en a 100 qui vont à la Sécu. Je schématise, je caricature à peine. Voilà comment fonctionne la Sécu, donc c'est important de le rappeler. Alors, pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, alors je remercie bien entendu tout le monde, les présents et les non-présents qui sont excusés, mais qui suivent également notre collectif de très près et les signataires qui nous ont rejoints. Je rappelle qu'on l'a mis en place le 23 janvier, donc c'est très récent, et on n'a pas à rougir aujourd'hui du nombre de signataires et de nombre de syndicats politiques, non politiques, gilets jaunes, etc., qui ont rejoint le collectif de toutes les tendances ouvrières et salariales du département. Alors, comme tout combat, il fallait un initiateur. Donc Sud Protection Sociale 93, donc je suis le secrétaire, a décidé de prendre l'initiative. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris l'initiative que le collectif nous appartient. Le collectif appartient à chacun et chacune d'entre vous. C'est vous qui ferez fonctionner ce collectif jusqu'à temps qu'on obtienne la victoire. On est ici pour gagner. On n'est pas là pour se réunir gentiment entre nous. C'est bien, il faut le faire. Mais il y a aussi, après, le terrain. Et sur le terrain, que ce soit syndical, politique, non politique, gilets jaunes, etc., on en parlera, je pense, ultérieurement, de se mobiliser pour garder le point d'accueil de Bondy, bien sûr, mais tous les points d'accueil qui vont fermer. Alors le bilan, je vais remonter à 2015, parce que j'étais remonté à 45, ça fait un peu loin. Donc en 2015, on est passé de 33 centres. Alors, la différence entre les centres et les points d'accueil, elle est importante. Quand je dis un centre, c'est-à-dire qu'avant, vous arriviez dans un centre de sécu, de la maternité à la CMU, à l'accident de travail, votre dossier était réglé quasiment. Les archives étaient sur place, il y avait un nombre suffisant d'agents et ils avaient tous les éléments. Normalement, vous sortiez du centre de gestion avec votre dossier qui était réglé ou pas, mais en tout cas, il était réglé dans les jours qui suivaient. Un point d'accueil, c'est pas pareil. Un point d'accueil, c'est on vous accueille, comme son nom l'indique, sans lapsus. Mais ils n'ont pas les archives sur place. C'est-à-dire que la sécurité sociale n'a pas un budget suffisant pour scanner toutes les archives des 1 500 000 ou 600 000, parce que l'INSEE, c'est même pas combien on est dans le 93, mais on va dire 1 500 000 assurés. Donc ils n'ont pas sur place les éléments pour régler votre problème. Non pas pour vous renseigner, ils le font, les collègues. Mais ils n'ont pas les éléments probants et suffisants pour que vous ressortiez du centre avec votre dossier bouclé. Alors, j'ai fait le point sur la différence entre les points d'accueil et les centres. Donc, de 33 centres, en 2015, on a été réduit à 18 centres. D'accord ? Ou points d'accueil. C'est vous qui choisirez le nominatif. Et nous sommes à 14 points d'accueil aujourd'hui. Alors 14 points d'accueil ouverts quand ils veulent. Covid ou pas Covid. On n'a pas le Covid depuis 2015, d'après mes connaissances, mes renseignements. Donc vous avez des centres de sécu qui sont ouverts quand bon leur semble. C'est la direction qui décide, qui donne les directives. Donc, ils sont ouverts 2 fois par semaine et bien souvent sur rendez-vous.
Ouais, c'est sûr.
Ce qui pose vraiment problème. Alors, pour revenir encore plus récemment, le 5 décembre 2020, la direction a annoncé aux organisations syndicales, aux IRP, hein, les instances représentatives du personnel, qui s'appellent le CSE maintenant, mais qui s'appelait le CE avant les ordonnances Macron, que Bondy, Pantin, les Lilas seront purement et simplement supprimés. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur la suppression. Ça, c'est pour demain. C'est premier trimestre 2021. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un changement de direction, ils sont zélateurs ou zélatrices. C'est-à-dire que quand ils viennent dans le 93, ils ont une forte promotion. Et les économies de gestion, c'est eux qui ramassent le pactole. Ce n'est pas les salariés. Vous savez, quand ils ferment des points d'accueil et qu'ils les bradent, parce que l'Air France a un prix dérisoire, c'est pas pour donner aux salariés aux assurés. Tout repart à la CNAM et de la CNAM, on ne sait pas trop où ça va. Et les directeurs, nouvellement arrivés, ils font tout ça. Hein. En 2015, c'était un nouveau aussi. Hein. On a eu ce problème en 2015, c'était un nouveau directeur, hein, qui était directeur de l'URSSAF, que je connais depuis 30 ans. Et à chaque fois, ils ferment les points d'accueil et ils ont fermé la clinique dentaire de la Courneuve. C'est historique. C'est-à-dire qu'à la Sécu en 1993, on avait des PMI qui ont été refilés au Conseil Général. On a pu, alors je ne vais pas faire l'historique, mais on a pu négocier avec le Conseil Général et la direction pour que les salariés de Sécu gardent leur convention collective. Parce que nous avons une convention collective. Nous ne sommes pas fonctionnaires. Nous sommes régis de droit privé. Par la convention collective de février 1957. Donc, vous voyez, on avait des PMI, ils les ont refourgués, excusez-moi l'expression, on avait même un laboratoire de prothèses dentaires au Rincy, qui fournissait les cliniques dentaires pour que les assurés sociaux aient des prothèses à un coût défiant de toute concurrence. Donc, ils ont liquidé ce labo de prothèses dentaires, on a les prothésistes qui sont devenus magasiniers, je ne sais pas si vous voyez un peu, qui ont été reclassés, mais ils sont magasiniers. Et maintenant, ils ont fermé la clinique dentaire de la Courneuve. C'est-à-dire qu'on avait une clinique dentaire à Aubervilliers, une clinique dentaire à Aulnay-sous-Bois. Ils ont fermé les deux. Ils en ont implanté une il y a 2 ans. Flambant neuf. Ils l'ont fermé en décembre 2020, avec l'arrivée de la nouvelle directrice. Donc vous voyez qu'ils sont motivés pour liquider les points d'accueil, les centres de soins dentaires, etc. Ils sont plus que motivés. Alors, la fermeture. Alors, j'ai bien dit que Bondy, Pantin, les Lilas, hein, qu'on fasse la différence, sont purement et simplement liquidés. Fermés. La fermeture programmée et vente de l'immeuble de Saint-Denis. Ah, il faut comprendre qu'à Saint-Denis, on a un point d'accueil, mais c'est un immeuble que la Sécurité sociale a acheté 22 millions d'euros, où il y a environ, avec le contrôle médical, la CRAMIF, pour le premier étage, on a environ 300 agents. Ça, il ferme. À Saint-Denis. Il ferme, il vend. Aubervilliers, on a un point d'accueil. Yvan. Drancy, on avait 3 points d'accueil à Drancy. Là, 0. Yvan. Alors, ces points d'accueil que je viens d'évoquer, c'est là qu'il faut faire la différence, seront substitués dans des maisons de services publics. Moi, je les appelle comme ça. Mais il paraît qu'on ne les appelle plus comme ça. Mais bon, le résultat est le même. Seront substitués dans des maisons de services publics et les assurés qui seront accueillis dans ces maisons de services publics ne seront pas accueillis par des agents de sécurité sociale. Ils seront accueillis par des emplois précaires dont le capital et le MEDEF ont l'habitude de faire, je ne vous fais pas de dessin, et seront formés par des agents de sécu. C'est-à-dire que on gagne sur les deux tableaux. On gagne sur le schéma immobilier, le maillage, et on gagne sur le coût salarial, entre guillemets, si on peut appeler ça un coût, des employés de sécu. Ils parlent même pour les dossiers complexes. En général, c'est la CMU et tout. Donc, les entreprises qui vont se substituer à la Sécu, de faire payer les consultations. C'est-à-dire que vous aurez un dossier CMU qui monopolisera un peu trop longtemps un salarié qui ne sera pas sécu, comme je viens de l'évoquer, on pourra éventuellement vous faire payer. Éventuellement, je
dis. Tu parles de la consultation du dossier. C'est même pas une consultation médicale, on est en train de parler.
Non, du dossier.
Tu consultes ton dossier et tu payes.
C'est comme quand tu vas voir un avocat, c'est 80 euros, tu connais. Hein. Inspection du travail, nous les syndicats aussi, les politiques, les cons, bah, les autres qui ont dans leur vie privée qui sont ni politiques ni syndicalistes, connaissent le coût d'une consultation d'un avocat. Je vais presque conclure. Alors, la conséquence pour les assurés, bah, elle est malheureusement simple. Là, il y a eu une petite inversion dans notre communiqué, on s'en excuse. C'est que déjà, 5 boîtes aux lettres sont prélevées sur 11. On avait mis le contraire dans notre. Donc pour l'instant, il y a encore 5 boîtes aux lettres où les assurés peuvent mettre leur courrier. J'ai plus les noms en tête, mais ça je pourrais vous fournir, il n'y a pas de problème. Sur 11. Alors, quand vous envoyez une feuille de soin, c'est 1,50€, à peu près. Ou 1,20€, je ne sais plus le prix du thym si on prend une lettre verte ou une lettre urgente. Quand vous enverrez un dossier accident de travail ou CMU, c'est 10€. Ça, c'est concret. C'est-à-dire que les assurés sociaux, ils ont intérêt à acheter des carnets de thym parce qu'ils vont vraiment en avoir besoin. Et ça va leur coûter très cher. Vous avez, en fermant les points d'accueil, les frais de transport. Vous vous doutez bien, nous, en tant que syndicalistes, on avait dit à la direction, bon, vous allez payer les frais de transport aux assurés sociaux. Hein, ceux qui vivent avec moins de 5€ par jour, ils ne vont pas mettre... un ticket de métro, un ticket de bus, pardon, qui est à 2,50€. Ils ont dit non, mais bon, le maillage est parfait, enfin, on noie le poisson. Donc, vous avez les frais de transport pour les assurés sociaux qui vont être conséquents. En plus, ils vont prendre le bus, j'imagine, j'espère, et ils vont arriver dans un point d'accueil qui n'est pas sûr d'être ouvert. Il faudra qu'ils rappellent le bus pour rentrer chez eux, mais ils n'auront rien réglé, ils n'auront même pas vu un agent de sécurité. Et on nous parle de développement durable. Ça pollue, hein, prendre sa bagnole ou le bus sans arrêt. D'accord ? Ou de prendre sa mobilette, ou de prendre sa moto. Hein. Vous avez aussi l'allongement du traitement des dossiers qui va se poser. Vous avez aussi la qualité du traitement du dossier qui va en pâtir de tout ça. Donc, je vais conclure en disant qu'aujourd'hui on a abondi, on s'en félicite, mais il faut faire ça, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, partout. C'est-à-dire dans tout le département. Il faut qu'on s'organise les uns les autres. Je sais que c'est pas simple, en plus avec la période du Covid, mais il faut absolument, nous Sud, on est prêt à le faire, hein, moi je suis à la disposition du collectif, hein. Qui plus est que je suis nouvellement retraité, mais j'ai toujours mon poste de secrétaire départemental. Je suis à la disposition du collectif personnellement et au nom du syndicat Sud. Vous avez vu que Solidaire National nous a rejoint, que Solidaire Fédéral, dont Fédération nous a rejoint. Donc voilà. Alors, j'ai contacté l'Union départementale Force Ouvrière. Pour ne pas le nommer, le secrétaire général qui s'appelle M. Reza Planchamp. Pour l'instant, je suis en attente d'un retour. Je préfère discuter avec l'Union locale de Bondy pour voir ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur Union départementale CGT. Je vais contacter prochainement l'Union départementale FSU. Alors, la CFDT, je peux le faire pour la forme, enfin, il ne faut pas se faire d'illusions, mais enfin. Comme il n'y a pas de sectarisme et nous sommes un collectif de toute tendance, pourquoi pas, je le ferai aussi. La CGC, La CGC, par exemple, en 2015, elle avait, je l'ai sous les yeux, avait voté contre la fermeture des points d'accueil, quand d'autres s'abstenaient ou prenaient acte, au conseil d'administration. D'accord. Donc voilà, je vous remercie encore de m'avoir prêté attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais vous laisser la parole parce que je pense qu'il y a...
On va organiser un peu
les choses. Un tour de table.
Voilà, on va faire un petit tour de table. Mais l'idée, c'est un peu.
Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes.
FPP achète bientôt une nouvelle table de mixage pour remplacer la console actuelle qui devient obsolète. Retrouvez le lien de la cagnotte sur rfpp.net ou sur notre page Hello Asso.
Alors soutenez la voix des sans-voix.
Oui, eh ben, nous sommes toujours en train de parler de fric, car la Sécu, c'est notre fric. Et oui, donc toujours, nous allons poursuivre le reportage en direct de la réunion unitaire qui s'est tenue à la mairie de Bondy vendredi dernier, et où nous avons beaucoup discuté justement des choix budgétaires qui ont été faits pour priver les gens de leur accès aux droits, tout simplement. Et on va voir au fur et à mesure que les différents participants de la réunion avaient beaucoup de choses à dire là-dessus. On a décidé de commencer par faire un tour de table, comme il se doit, pour savoir pourquoi les uns et les autres étaient là. Et nous avons eu la chance d'avoir une copine handicapée qui était là pour expliquer ce qui lui arrivait. Et c'était extrêmement intéressant.
Il parlait d'économie, je comprends ce qui m'est arrivé du coup. Parce que moi, dans la même situation que le monsieur, 5 ans d'accident de travail, reçu par le médecin conseil de la sécurité sociale, qui me dit, j'enlève l'accident de travail, par contre, je vous permets de rester en arrêt maladie le temps que c'est nécessaire avec l'employeur. Ma santé est toujours pareille, c'est juste financièrement que ça va plus. Donc j'ai perdu les 3/4 de l'accident de travail. Et puis même là, maintenant que je vais demander une inaptitude, comment ça se passe? Comment je vais être payée par mon employeur? Puisque je ne suis plus dans l'accident de travail, malgré que j'ai toujours les séquelles d'accident de travail. En fait, ils nous mettent dans une situation, on voit comme ça des économies affolantes, en fait. Ils ne pensent pas aux personnes, ils ne pensent pas aux gens. On est des gens lambda, en fait. On a besoin de vivre comme tout le monde. Et on a cotisé pour la Sécu. Et ils ont pris de l'argent quand je travaillais. Ils ont bien pris sur mon salaire. Pourquoi aujourd'hui tu n'as plus le droit? Pourquoi aujourd'hui on fait ça? On enlève l'accident de travail pour mettre des arrêts maladie, qui forcément, financièrement, ça ne donne pas la même chose. Il y a forcément un souci quelque part. Donc, pour les gens.
Ouais. Moi, je voulais faire un comparatif. Alors, je suis inspecteur du travail en Seine-Saint-Denis, donc à Bobigny. Faut savoir que c'est tout un système de protection. Enfin, on est complémentaire de la Sécu, nous, parce que nous, au moment de l'accident du travail, ben, on vient enquêter, en fait. Donc, on vient donner des données qui vont normalement permettre... et je comprends pas comment le médecin, de sa propre autorité, il dit que c'est plus un accident du travail. Il faut qu'il vienne nous voir, parce que nous, on va lui expliquer la vie, hein. C'est pas comme
c'est
ça que
dame,
ça se passe.
Elle est à
très bien, bon bah. On parlera. Non mais on parlera, c'est juste c'est hallucinant quoi. Par ailleurs, bon, juste pour faire un parallèle, ça fait maintenant des années qu'il y a de moins en moins de couverture du territoire par l'inspection du travail. Okay, il faut savoir que le tiers des sections d'inspection du travail de Seine-Saint-Denis ne sont pas couvertes par un agent, ce qui est illégal. Alors, on nous demande d'assurer des intérims d'autres sections, etc., ce qui veut dire que, bon, vous imaginez double, triple charge de travail, mais en fait, on ne peut pas assurer le service, la vérité. Donc en fait, je voulais juste faire le parallèle en disant que c'est la même logique derrière. Mais en fait, nous, on est comme ceinture et bretelles avec la Sécu. C'est-à-dire que si jamais nous, on loupe quelque chose, normalement, la Sécu, elle doit rattraper les informations. Si jamais la Sécu ne voit pas quelque chose, nous, normalement, on doit pouvoir leur donner les infos. Mais si on supprime les deux côtés, il n'y a ni plus ni ceinture ni bretelle. On va tous perdre notre froc, si je peux me permettre, quoi. Donc, c'est pas pour dévier sur le sujet, c'est pour montrer qu'il y a un contexte général de suppression des protections des salariés. Voilà. Et à commencer en avant, en amont et en aval. Et là, on est en train de parler de la protection aval, après les événements, après les maladies. Mais il y a aussi les protections amont sont aussi en train d'être supprimées. C'est-à-dire que il risque d'y avoir encore plus de maladies professionnelles et d'accidents du travail, et encore moins de centres de sécu pour les recevoir et les traiter. On est dans du délire. Et d'ailleurs, ils sont en train de jouer avec la vie des gens pour des questions de pognon, quoi. Ils mettent dans la balance d'un côté des gens qui vont crever et de l'autre, oui, mais on va se faire du pognon aussi. Donc, peut-être que ça vaut le coup, en fait, de laisser crever les gens. C'est ça le calcul, hein. On voit pas d'autres calculs possibles. Et ils ont assumé un côté et pas l'autre, quoi. Ça, c'est clair. Ils ont choisi leur camp, ça, c'est clair.
Ouais, c'est ce que ça appelle aussi.
Et voilà, donc, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, mode d'emploi. Format secret de fabrication, et c'est de révéler pour vous toutes les astuces de l'ennemi et tous les moyens possibles pour les déjouer. Et c'est comme ça, sur mode d'emploi, tous les troisièmes vendredis de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel. La discussion s'est poursuivie. Vous avez vu que votre bien-aimé serviteur a bien entendu fait de la participation, hein, dans une réunion comme celle-ci. On peut pas s'en empêcher. Mais toutes sortes d'informations est très intéressante arrivée, y compris d'une conseillère communiste de Bondy, déjà plusieurs mandats, donc qui a vu passer la précédente vague de liquidation, parce que on vous rappelle que on est passé donc de 33 centres de traitement de la sécurité sociale en Seine-Saint-Denis à 15, et qui sont aujourd'hui en train de supprimer, et que donc il y avait déjà la bataille lors de la suppression de la moitié des centres en 2015. Elle voulait parler un peu de ce qui était possible de faire à ce moment-là.
Le rassemblement qui pourrait éventuellement donner des effets, c'est vous rappeler en effet, monsieur Sylvain de Quivre en a parlé tout à l'heure, l'action de 2015. Alors, je ne suis pas forcément complètement satisfaite du résultat qu'on a eu, mais on en a quand même eu un. Et en effet, il y a une très forte mobilisation. On a sillonné les rues de Bondy, on a mis des banderoles partout, on a appelé sur le réseau, enfin, une très forte mobilisation parce que la sécu, elle est fermée. Alors nous, ce qu'on a connu à Bondy, enfin, quand même la troisième ville la plus pauvre en potentiel financier et fiscal de ce département, c'est on ne peut rester que dans les endroits où on est propriétaire des locaux, premièrement, mais on vous dit en même temps qu'on choisit ces endroits, on va quand même rester dans les endroits où les gens sont les plus modestes. Ah ben, très bien, je me suis dit, c'est bon, quand j'ai vu ça, Sylvie, on était ensemble, je crois, je me suis dit, c'est bon, ils vont rester à Bondy. Non, pas du tout, parce que nous, ils ne sont plus propriétaires de locaux. Et pourquoi ne sont-ils plus propriétaires de locaux? D'abord, on vend le centre de sécurité sociale du nord de la ville, rue Jean Lebas, c'était il y a plus de 10 ans, et ensuite, on vend ce qui est devenu la maison de quartier Brassens, en face de Guillaume Apollinaire, en centre-ville. On s'installe dans des tout petits locaux, où on paye un loyer, la Sécu paye un loyer, et donc, du coup, il n'était plus propriétaire de locaux, il les avait vendus, ils avaient déjà fait cette valorisation foncière dont vous parliez à l'instant. Et donc, parce qu'ils les avaient déjà vendus, ils ne pouvaient pas rester chez nous, mais ils restaient au Rinci. Très bien pour le Rinci, hein, les Rincéens aussi ont besoin d'une sécurité sociale. Enfin, excusez-moi du peu, s'il y avait une ville qui devait être choisie, c'était quand même plutôt Bondy. On mène un tintouin d'enfer et on obtient... je suis montée jusqu'à Porte de Montreuil, c'est la caisse régionale ou nationale?
C'est national.
C'est national, hein, Porte de Montreuil, c'est ça?
Non, c'est plus, c'est la CNAM.
La CNAM, voilà, c'est ça.
C'est plus la CNAM, TS des travailleurs salariés maintenant. C'est la CNAM tout court, moi je dis.
C'est la CNAM.
Il y en a qui
veulent
l'écrire.
Donc les grands patrons, je dois encore avoir ça dans mes dossiers, qui me reçoivent et qui me disent, ok, On va rester à Bondy, mais vous nous mettiez des locaux à disposition, parce que nous, on ne rachète pas de locaux et on ne loue pas. Bon, la mort dans l'âme, on avait prévu des locaux pour la jeunesse sur le nord de la ville. La mort dans l'âme, voulant garder nos services publics, on leur met à disposition le centre Farnol. Et oralement, à la CNAM, il m'avait dit, on sera là, j'avais quand même pris mes avants, vous restez bien 5 jours par semaine, le point d'accueil est ouvert 5 jours par semaine. Ils me disent oui, oralement. En fait, il a été ouvert 2 jours, le mardi et le jeudi. On a mis à disposition un équipement public, payé par les Bondinois, pour accueillir la sécurité sociale 2 jours par semaine. Donc franchement, c'était mieux que rien, mais quand même, la lutte avait payé. D'autres villes ont vu partir leur centre de sécurité sociale sans aucune autre proposition. Donc la lutte paie, oui, mais il ne faut pas leur faire de chèque sans provision à ces gens-là. La question que j'aurais à vous poser, quand vous dites qu'il y aura une moins bonne qualité, j'ai mes 2 paires de lunettes, oui, un allongement du traitement du dossier, c'est du fait des salariés non formés que vous pensez qu'il va y avoir un allongement des dossiers, Sylvain de Quivre ?
Oui, entre autres.
D'accord.
Je le pense vraiment.
Ok. Donc en clair, on ne leur signe pas de chèque sans provision, on fait un tintouin d'enfer, je ne suis pas sûre qu'on gagnera, mais en tout cas on essaie de gagner, parce que ce que je sais, c'est qu'on est assuré de ne perdre que les batailles que l'on ne mène pas. Donc celle-ci, il faut la gagner.
Eh bien voilà, donc on voit bien les ressorts sordides qui peuvent animer les élites quand elles décident de sacrifier les gens, quoi. Et on voit qu'effectivement les conseillers municipaux, les municipalités, elles se retrouvent prises à la gorge là pour le coup dans tout le département, j'imagine. C'est pour ça que toute cette réunion était parfaitement intéressante avec ces masques partout, tout le monde masqué comme des conspirateurs et à une distance de 2 mètres évidemment. Et la mairie de Bondy nous avait mis à disposition une grande salle, comme quoi ça, il faut toujours essayer de se réunir, hein, quand même. C'est très important. Et donc on fait plein de rencontres dans ces réunions, et donc je voulais faire une petite interview. Je vous présente donc Catherine, alors Catherine est très 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 fâchée contre la multiplication des kebabs. Parce que elle trouve que c'est débile dans une même rue de pas avoir de centre de sécu et d'avoir des kebabs partout. Et elle l'a dit en réunion et elle a tenu à le préciser comment c'était un peu idiot tout ça et proposer des solutions pour défendre les centres de sécu et l'accessibilité des centres de tous les centres de services sociaux.
Alors, je suis Madame Desruelles Catherine, qui demeure au 67 rue Jules Guesde, bien sûr, à Bondy. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mm-hmm. Et concernant, bien sûr, hein, de ce que j'ai expliqué, bon, il y a encore plus que ça, mais on ne peut pas trop passer des heures, bien sûr, de là. Mm-hmm. Je pense que c'est bien que de parler entre nous et puis de s'expliquer quand même ce qui va, ce qui va pas, ce qu'on peut faire pour essayer de améliorer, parce que bon, c'est vrai que c'est pas trop facile depuis quand même depuis un bon moment. Et de là, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution, et comme on dit toujours, il y a toujours une solution qui arrive, et puis voilà quoi, c'est pas trop pratique quand même.
Et à ton avis, la prochaine étape pour que le maximum de gens soient au courant de ce scandale de fermeture de centres en masse, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait les percuter ?
C'est vrai que s'il y aurait même de plus de personnes, mm-hmm. ça permettrait peut-être entendre autre chose que nous n'avons pas eu l'idée de parler.
La force du nombre, quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, moi, c'est vrai que j'ai eu autre chose à parler, mais bon, le plus important, c'est vrai, c'était sécurité sociale, parce que moi, j'ai une alarme, je suis déclarée au AAH, hein, je fais des crises d'épilepsie, je peux tomber n'importe où. C'est pour ça que je demandais, pourquoi pas, de le remettre où c'était, vu que c'était à 3 pas de chez moi, et de courir jusqu'à Bondy Nord, c'est pas
ça
du tout...
Ça fait une différence de combien de temps entre avant et maintenant ?
Ben, je mets... À pied, je mettrais bien 20-25 minutes à pied, et que si j'attends le bus qui est là,
ce sera pas beaucoup
plus court. Je prends 346 et des fois je vais plus vite que le bus, quoi. Mais bon, c'est vrai que au début ils ne le faisaient rentrer, et après ils disent ah ben non, faut prendre un rendez-vous, ils nous faisaient sonner, ils disent ah ben non, on peut pas vous recevoir, il faut téléphoner.
D'accord.
Alors je suis allée pour rien.
C'est plus loin et c'est plus compliqué.
C'est plus loin et c'est plus compliqué parce que concernant de ma santé et concernant de la dame, comme vous voyez, c'est pas non plus très agréable. Et que en plus des personnes âgées entre guillemets 70, 80 ans ou moins ou quoi, ou qui a un problème de jambe ou quoi, que moi j'ai déjà vu des personnes qui a une jambe en moins, c'est pas du tout agréable de...
C'est ceux qui ont le plus besoin et qui ont le plus de difficultés
bah
d'aller...
Oui, de remettre vraiment d'une sécurité sociale. Parce que depuis qu'ils ont été... entre guillemets, je crois que c'était cassé, les vitres, hein, je les ai vues. Après, ils avaient remis les vitres. Après, de suite, ça a été cassé. Et tout d'un coup, paf, ils nous ont dit « Ah ben non, c'est plus ici, c'est à Bondy Nord. » J'ai dit « Attendez, nous, on peut plus.
Ouais. »
C'est comme une CAF.
Ouais.
Pourquoi ils nous mettront pas le plus proche ? Alors, c'est où ? À Bobigny ? Ou à Rony. C'est pas trop agréable non plus.
Non.
Et moi, quand j'y vais, le plus proche, c'est Bobigny. Je prends le bus, le 105, après je prends le tramway. Après, j'ai une toute petite marche à pied.
Alors que les gens qui ont besoin de la CAF,
il y
en a des milliers dans chaque commune, en fait.
Voilà, c'est pourquoi pas avoir ça aussi à chaque deux villes. D'avoir cette situation
CAF,
de
sécu,
ça.
Etc.
Une sécu, une CAF. Hein. Vous voyez, moi je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était trop acheté concernant des Grecs,
oui.
des épiciers, banques.
Dans une rue, il y a 4 restaurants grecs,
mais
4 banques.
Tout de suite, moi, je sors de chez moi, il peut dire. Tout de suite, il y a un Grec là. Il y a un nouveau grec qui est fait,
qui
vous savez, au truc d'emploi.
Ah ouais, carrément.
C'est ici. Alors, ils ont acheté une partie de ça, qu'ils ont fait un grec, et une partie de truc d'emploi tellement c'était grand, en coin, ils ont fait un épicier.
Ah ouais, d'accord.
Parce qu'ils ont pris une partie.
Ils ont coupé en deux parce qu'il y avait de la bande de
race. Voilà. Après, donc, ils ont rajouté.
On vend des bâtiments énormes pour faire encore plus de petits commerces qui sont le même que celui qui est au bout de la rue à côté.
Voilà, c'est ça. C'est comme les boulangeries.
Par contre, il n'est pas remplacé.
Mais non. Voilà. C'est comme les boulangeries. Ça a été acheté parce qu'en face de chez moi, c'était celle qui vendait des canevas, les pelotes de laine, tout ça.
Ouais.
Et bien, c'est acheté, c'est une boulangerie. Qu'il y en a une là, il y en a une à côté du marché du dimanche.
D'accord. Il y a 4 doublons de boulangerie.
Par contre, il y a le boucher qui est fermé.
Eh oui. D'accord.
Pourquoi pas de faire la sécu ? Il y a le boucher, il est en retraite. Je l'ai connu, moi.
Voilà. L'émission approche de sa fin, mais je voulais juste revenir sur un truc que Catherine a dit et pour lequel elle a dit beaucoup plus clairement que moi. Moi, j'ai dit la force du nombre et Catherine, elle a dit entendre tout le monde. Elle dit on est plus fort quand on entend tout le monde et qu'on a des nouvelles histoires qui viennent s'ajouter et c'est vrai. Et c'est en fait la force du nombre, elle vient de ça. Elle vient aussi de la diversité des trajectoires qui montrent tous la même chose. Et on comprend mieux quand on est nombreux et nombreuses à se retrouver autour de, là, comme par exemple, toute une table et à pouvoir dire les choses. Et donc, bah, c'est peut-être ça le plaisir de se battre tous ensemble pour les mêmes causes, c'est qu'on trouve qu'on a tous raison ensemble, pour chacun nos raisons de faire ce qu'on fait. Bon, voilà, c'était un peu le sommaire de l'émission. J'espère que les banquetiers de 1848 nous regardent et qu'ils sont fiers de nous. Hein, on fait ce qu'on peut. Et puis, eh ben, on va laisser chacun prendre ses marques sur son lieu de travail ou sur son lieu de chômage ou sur son lieu de survie, quel qu'il soit, et nous rejoindre dans ces batailles. Allez, à bientôt. C'était Secret de fabrication, mode d'emploi, une émission. Bon, voilà quoi, comme on les bricole à la ramasse. Allez, salut.